Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Alors, si un mouvement naissant veut bouleverser la société et vraiment s'imposer, la stratégie habituelle est assez limpide.
Ouais, il faut s'allier aux puissants, c'est la base.
C'est ça. Cultiver un réseau d'influence et surtout ne jamais s'associer publiquement aux parias ou aux traîtres de la nation. C'est vraiment la règle numéro une de la survie politique et sociale.
Totalement. Mais quand on observe la Judée du 1er siècle, on est une figure historique qui décide de faire exactement le contraire, et avec une précision qui semble presque chirurgicale pour le coup.
Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notre analyse s'appuie sur les travaux académiques du docteur Craig Kinner. Il a méticuleusement décortiqué les chapitres 8 et 9 de l'Évangile selon Matthieu.
Et je précise pour ceux qui nous écoutent, l'objectif ici, c'est pas de faire un simple résumé religieux ou théologique. Pas du tout.
Non, la mission de cette plongée, c'est de comprendre que cette série de miracles, qu'on prend souvent aujourd'hui pour de simples tours de magie antiques, c'est en réalité une démonstration radicale et super calculée.
Exactement. C'est l'affirmation d'une autorité qui vient littéralement percuter et démanteler les normes économiques, sociales et religieuses de l'époque. C'est fascinant quand on l'analyse de près.
Du coup, le fil conducteur de nos sources aujourd'hui, c'est cette notion d'autorité. On va regarder ça sous l'angle historique pour voir comment elle est redéfinie.
Et ce que ça coûte, hein ? Parce que le prix à payer pour celui qui l'exerce est exorbitant, sans parler des exigences vertigineuses pour ceux qui choisissent de le suivre.
C'est clair. Et la première anomalie flagrante qui illustre ce bouleversement, ça concerne un centurion romain. C'est vraiment l'exception qui annonce la règle.
Ah, le centurion, c'est le symbole même de l'ennemi occupant, un officier de l'armée romaine ou peut-être un mercenaire assyrien qui bosse pour Rome.
Le gars qui maintient la population locale sous un joug de fer, quoi. Et il vient demander la guérison de son serviteur. La dynamique de leur échange bouscule complètement les attentes.
Surtout quand on regarde le texte grec de Matthieu, il y a un détail super intéressant. Jésus semble créer un obstacle intentionnel à la demande du gars.
Un obstacle genre un test?
Ouais, en fait, sa réponse, c'est plutôt une question. Il dit un truc comme « Irai-je le guérir ?» C'est un test culturel direct, parce que un juif pieux n'était pas censé entrer chez un païen.
Oui, ça le rendrait rituellement impur, c'est ça.
C'est exactement ça. Franchir ce seuil, c'était une impureté rituelle majeure à l'époque.
Et la réaction du centurion est brillante. Franchement, ça m'a fait penser à la logique d'un PDG moderne ou d'un général d'armée d'aujourd'hui.
C'est une très bonne analogie. Le mec comprend intimement l'autorité structurelle, tu vois.
Voilà. Il dit en gros, je dis à mon soldat, va, et il va. Il n'a pas besoin d'une visite à domicile. Il reconnaît que Jésus possède cette même chaîne de commandement, mais sur la maladie elle-même.
Et le contexte financier en ça encore plus fou. Les sources historiques montrent qu'un centurion gagnait genre 15 à 60 fois la solde d'un soldat de base.
Ah ouais, quand même.
Ouais, c'était un homme super riche et puissant. Donc le fait qu'il s'abaisse publiquement pour intercéder pour un simple subalterne, c'est déjà une anomalie totale.
Et la réponse de Jésus l'est encore plus, non ?
Grave. Il annonce que cette exception, c'est la préfiguration d'une inclusion bien plus vaste. Les païens viendront d'Orient et d'Occident. Ça contrastait durement avec l'angoisse de l'élite religieuse locale.
Ceux qui pensaient avoir un accès VIP garanti au royaume à cause de leur lignée. Mais bon, exercer une autorité à distance comme ça, ça a un côté très clinique. Or, on va vite voir que c'est pas du tout son style habituel.
Pas du tout. L'autorité de Jésus, c'est pas celle d'un roi distant dans son palais. C'est celle d'un médecin de première ligne qui plonge les mains dans l'infection.
Et ça, on le voit bien avec la guérison de la belle-mère de Pierre. Les archéologues ont d'ailleurs retrouvé des trucs intéressants à Capharnaüm, non ?
Oui. Ils ont identifié ce qui est très probablement la maison de Pierre, qui était super proche de la synagogue. Et après sa guérison, la belle-mère se lève pour les servir.
L'idée, c'est que Jésus ne guérit pas par magie de loin, il s'approprie vraiment les souffrances.
Et c'est là qu'il commence à accumuler les impuretés rituelles. Je veux dire, il touche un lépreux. Ensuite, il se laisse toucher par une femme qui a des hémorragies chroniques depuis 12 ans.
Et le pire pour la loi juive de l'époque, il prend la main d'un cadavre, une jeune fille morte.
Dans le Lévitique, ce sont vraiment les trois sources maximales de contamination. La lèpre, le sang, la mort. C'est radioactif rituellement parlant.
C'est le mot. Et la règle habituelle dans le monde antique, c'est que l'impureté est contagieuse. Si tu touches un truc impur, tu deviens impur. Mais là, l'auteur de l'Évangile nous montre une inversion totale du paradigme.
C'est-à-dire ?
En gros, en embrassant cette impureté, c'est la pureté de Jésus qui devient contagieuse et qui restaure les corps.
Mais d'un point de vue stratégique, c'est un suicide total. C'est un désastre en relations publiques.
Ah bah, si tu cherches à monter dans l'échelle sociale, oui, clairement.
Bah oui, pourquoi il choisit délibérément de dilapider son capital social ? Je veux dire, avec un tel pouvoir, il aurait pu s'allier aux pharisiens, à l'élite du temple, et réformer le système de l'intérieur, tu vois ?
C'est la question centrale. Et la réponse des sources, c'est que sa mission n'a jamais été de cultiver la faveur politique. S'allier aux puissants, ça aurait juste validé le système en place.
Donc il va vers les marginaux pour montrer autre chose.
Il veut montrer le cœur de Dieu envers les personnes brisées. C'est l'annonce d'une restauration totale, physique et spirituelle. Et ça, bah, ça passe par le sacrifice de son propre statut.
Sauf que si le coût est immense pour lui, qu'en est-il pour ceux qui veulent le suivre ? Parce que l'avertissement qu'il donne à un disciple potentiel est assez brutal.
Tu penses au passage sur les renards ?
Voilà. Il dit un truc genre « le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, même les oiseaux et les renards, qui sont souvent des symboles de rejet dans la Bible, bah, ils ont un abri. » En gros, suivre Jésus, c'est accepter le sans-abri.
La précarité absolue. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a cette fameuse injonction choquante sur l'enterrement. Un disciple lui demande la permission d'aller enterrer son père.
Et la réponse, c'est « laisse les morts enterrer leurs morts ». Franchement, en préparant cette émission, je me suis dit que c'était incroyablement cruel.
Vu de notre époque, ça l'est.
Mais même à l'époque, je veux dire, ne pas enterrer son père dans la Méditerranée antique, ça faisait de toi le paria du village à vie. Jésus demande à ses disciples de devenir des monstres antisociaux ou quoi ?
Alors, il faut vraiment regarder le contexte des coutumes funéraires de l'époque, particulièrement l'inhumation secondaire. C'est la clé de ce passage.
L'inhumation secondaire. Comment ça marchait ?
En gros, les rites se faisaient en deux temps. T'avais le décès immédiat avec les pleureuses professionnelles et la période de deuil de 7 jours, la Shiva. Là, on mettait le corps dans un tombeau.
Ok, ça c'est classique.
Mais environ un an plus tard, quand les chairs étaient décomposées, le fils aîné devait retourner au tombeau pour recueillir les os et les mettre dans un petit coffre, un ossuaire.
Un an plus tard ? Ah, c'est hyper long comme engagement.
Exactement. Et d'ailleurs, certains rabbins enseignaient que ce processus de décomposition de la chair, bah, ça expiait les péchés du défunt. C'était un devoir sacré, monumental.
Donc le disciple ne dit pas « Mon père vient de mourir là, dans le salon. Il demande un sursis d'un an pour accomplir ce rituel final. »
Voilà. Ce n'est pas de la cruauté de la part de Jésus. C'est l'utilisation d'obstacles rhétoriques insurmontables pour tester l'engagement. C'est très similaire aux anciens prophètes radicaux.
Genre Élie qui mange grâce au corbeau ou Ézéchiel qui cuisine sur des excréments.
C'est ça, Jésus exige une priorité absolue sur les devoirs filiaux les plus sacrés. Subtilement, il affirme qu'il a une autorité sur les vies humaines que seul Dieu est censé posséder.
Et une fois qu'il a redéfini cette autorité sociale et filiale, on voit qu'il passe au niveau supérieur. Il s'attaque au chaos pur, la nature et les démons.
La transition est brutale. On passe des règles sociales à la maîtrise des éléments déchaînés avec l'épisode de la tempête apaisée sur le lac de Galilée.
Ce lac, d'ailleurs, il a une géographie particulière qui explique la violence de la scène. Il est à près de 200 mètres sous le niveau de la mer, entouré de montagnes rivennes.
Ce qui crée un effet d'entonnoir pour les vents. C'est une vraie soufflerie naturelle qui peut créer des micro-tempêtes mortelles en quelques minutes.
Et au milieu de ce chaos total, Jésus dort. Bon, il est épuisé par son ministère, mais c'est quand même fou.
C'est très symbolique. Dans l'idéal philosophique antique, le stoïcisme par exemple, garder une tranquillité absolue face au chaos, c'est la maîtrise parfaite.
C'est l'anti-Jonas, en fait. Jonas fuyait sa mission au fond du bateau. Là, Jésus est parfaitement en paix avec la sienne. Et quand il se réveille et calme la tempête d'une parole, les disciples sont pas juste soulagés, ils sont terrifiés.
Une terreur sacrée, ouais. Ils réalisent la puissance de ce qu'ils ont dans la barque avec eux. Et cette domination se poursuit juste après, de l'autre côté du lac, avec les démoniaques de Gadara.
Ah oui, la fameuse rencontre dans les tombeaux. Des lieux super impurs, souvent associés à la magie noire à l'époque.
Et là encore, il y a un détail géographique intéressant entre les textes. Marc situe l'action à Gérasa, qui était la grande ville de la région, alors que Matthieu parle de Gadara, une ville beaucoup plus proche du lac.
C'est pas une contradiction, du coup ?
Non, c'est un choix éditorial. Marc s'adresse à un public lointain qui connaît que les grandes villes, comme si je te disais, c'est près de Paris. Alors que Matthieu écrit pour un public local qui connaît la topographie exacte des falaises de Gadara.
C'est fou comme ces détails ancrent leur récit dans le réel. Mais bon, le vrai scandale de cette histoire, c'est le choix que fait Jésus. Les démons supplient d'aller dans un troupeau de cochons et paf, les cochons se jettent à l'eau.
Et on pourrait penser que les habitants seraient contents d'être débarrassés d'un homme violent et possédé.
Ben non, c'est la tragédie absolue, ils lui demandent de partir.
En lisant ça, j'ai fait un parallèle avec le monde de l'entreprise moderne. Imagine un lanceur d'alerte qui découvre qu'un produit tue des gens.
Ok, je vois où tu veux en venir.
Il dénonce le truc, il sauve des vies, mais l'action en bourse s'effondre. Est-ce que l'entreprise le remercie ? Non, elle le vire pour avoir détruit ses profits.
C'est une excellente métaphore. La société de Gadara préfère préserver sa propriété, son industrie porcine, plutôt que de célébrer la restauration d'un humain marginalisé. Le capital avant l'humain.
Exactement. Et si détruire des biens matériels, ça dérange ? S'attaquer au monopole spirituel et fiscal, ça va déclencher la guerre totale. On arrive au chapitre 9.
L'escalade institutionnelle. Ça commence fort avec le paralytique.
Ses amis cassent tout pour obtenir une guérison physique, mais Jésus regarde le gars et identifie un besoin encore supérieur. Il lui dit que ses péchés sont pardonnés.
Et là, c'est la ligne rouge. C'est le blasphème absolu pour les religieux présents. Déclarer le pardon des péchés comme ça dans une maison, c'est s'approprier une prérogative qui appartient exclusivement à Dieu.
Et au temple de Jérusalem, non. Je veux dire, il y avait tout un business de sacrifice pour ça.
Totalement. C'est un monopole d'État. Et Jésus, en guérissant physiquement le paralytique juste après, il prouve de manière visible qu'il détient vraiment cette autorité invisible pour pardonner. Il court-circuite tout le système clérical.
Et juste après, il enfonce le clou avec l'appel de Matthieu, le collecteur d'impôts. Franchement, le statut de ces mecs-là à l'époque, c'était pire que tout.
C'était des traîtres collaborateurs. Le système du fermage des impôts romains était d'une brutalité inouïe.
J'ai vu que des documents égyptiens de l'époque racontent des horreurs. Les percepteurs torturaient des femmes âgées pour retrouver leurs fils qui fuyaient l'impôt. Des villages entiers devenaient des villes fantômes.
Et financièrement, c'était de l'extorsion pure et simple. On a retrouvé des reçus officiels d'impôts qui montaient à 2200 drachmes.
C'est absurde. C'est l'équivalent de plusieurs années de salaire. Et c'est avec un gars comme ça, un prédateur, que Jésus va faire alliance. Le pire, c'est qu'il mange chez lui.
Et le repas dans le Proche-Orient ancien, c'est pas juste pour se nourrir. Partager un repas, c'était sceller une alliance sacrée.
Tu as une anecdote là-dessus d'ailleurs avec l'Iliade d'Homère, c'est ça ?
Ouais, c'est l'exemple parfait de cette puissance culturelle. Dans l'Iliade, t'as deux guerriers ennemis, Glaucos et Diomède, qui sont sur le point de s'entretuer. Et ils réalisent que leurs grands-pères respectifs avaient partagé un repas ensemble.
Et juste pour ça, ils arrêtent de se battre.
Ils baissent les armes directes. L'hospitalité d'un repas ancien efface l'inimité immédiate. Donc, quand Jésus mange avec les percepteurs, il les intègre complètement.
Les pharisiens étaient en PLS total. Eux qui passaient leur vie à maintenir des barrières de pureté. Et la réponse de Jésus cite le prophète Osée « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ».
C'est un coup de massue théologique.
Et il utilise ces fameuses métaphores, tu sais, le drap neuf sur le vieux vêtement ou le vin nouveau dans des vieilles outres qui finissent par éclater.
Parce que sa miséricorde radicale ne peut tout simplement pas être contenue dans leur structure religieuse rigide. Ça va tout faire péter.
Littéralement. Et pour boucler la boucle, on finit avec deux histoires entremêlées qui montrent bien ça. La femme aux pertes de sang et le chef de la synagogue, Jaïrus.
D'un côté, la paria totale ostracisée par le Lévitique 15. De l'autre, le dignitaire riche et respecté.
Mais la maladie et la mort les réduisent exactement au même niveau de désespoir et de besoin absolu. La hiérarchie n'existe plus face à ça.
Et Jésus embrasse à nouveau l'impureté rituelle pour les sauver. Le sang et le cadavre. Il redonne la vie en brisant les règles.
C'est fou. Pour synthétiser tout ça, on voit bien que l'autorité, dans ces chapitres, n'écrase pas. Elle s'abaisse. Elle détruit le chaos, oui, mais surtout, elle démantèle la hiérarchie humaine qui valorise l'argent, la pureté rituelle ou le statut social au détriment de la compassion.
C'est le cœur du message des sources qu'on a étudiées. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
On a tendance à romancer ces miracles aujourd'hui. Mais imagine si un individu débarquait de nos jours. S'il ruinait l'économie locale de toute une région pour sauver une seule personne instable.
Ah ouais, le tollé général.
S'il bafouait publiquement les traditions funéraires les plus sacrées et qu'il organisait des banquets d'alliance avec les personnalités les plus corrompues et détestées de notre société.
Les élites financières véreuses, les criminels en col blanc.
Voilà. Est-ce que les grandes institutions religieuses modernes qui sont censées être fondées en son nom l'accueilleraient ? Ou est-ce qu'elles seraient les premières, comme les citoyens effrayés de Gadara, à le supplier de quitter leur territoire, vu qu'elles ont passé 2000 ans à reconstruire les hiérarchies exactes qu'il a détruites ?
Ouf, c'est une question vertigineuse. Et ça montre à quel point ces textes anciens sont encore capables de bousculer nos systèmes contemporains. Merci beaucoup pour cette analyse.
Avec grand plaisir.
Et c'est tout le temps que nous avions pour cette plongée dans les chapitres 8 et 9 de Matthieu. On laisse notre audience méditer sur cette question épineuse. À très bientôt pour une nouvelle exploration approfondie.